semaine militante et qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission spéciale Québec sans frontières. Et c'est Radio Tonique qui suit à l'instant même. Bonne semaine tout le monde.
Девушки бросают меня. Смайл.
Tem comércio? Quer promovê-lo? Pensa que é caro comprar publicidade na rádio? Ficará surpreendido com a Rádio Centro-Ville. Mais de 100 mil ouvintes em 8 línguas. Preços acessíveis.
Bonjour, je m'appelle Eve et je vous invite à appeler mon père. Il s'occupe de la publicité à Radio Centre-Ville. Si vous voulez faire connaître davantage vos produits ou vos services, téléphonez à mon père. Vous verrez, il connaît son affaire et il est super cool. Annoncer à Radio Centre-Ville n'est pas dispendieux, vous savez. Mais ce qui est le fun, c'est que vous pouvez rejoindre les communautés qui vous intéressent. On a des émissions en français, anglais, portugais, grec, espagnol, créole, mandarin et cantonais. Informez-vous sur la publicité radio. Demandez Daniel au 514-495-8836. 495-8836. Bye bye!
Radio Centre-Ville vous propose quelques bons endroits où acheter vos produits équitables, produits naturels, produits biologiques et encore plus. Voici un de nos partenaires.
Dans l'effervescence du marché Jean Talon, vous trouverez un endroit unique en son genre, l'épicerie Alfalfa. Venez visiter notre équipe chaleureuse, prête à répondre à vos questions et à vous offrir une gamme variée de produits naturels, équitables et biologiques de qualité.
Radio Centre-Ville vous invite à découvrir ses partenaires de choix. Afin de les connaître, visitez radiocentreville.com.
Vous êtes concerné par ce qui se passe dans le monde, par divers sujets tels la crise alimentaire, le pillage des ressources naturelles, la crise du capitalisme et l'action des mouvements sociaux? Alors venez aux journées alternatives du 22 au 24 août au Camp Papillon dans Lanaudière. Lors de cette fin de semaine de conférences, d'ateliers et de débats, vous bénéficierez de l'expertise de spécialistes et de militants. Vous apporterez vos réflexions tout en appréciant le charme d'une fin de semaine à la campagne et notre ambiance festive du samedi soir. Transport, repas et hébergement sont inclus dans le séjour. Place limitée. Informations et inscriptions au 514-982-6606, 982-6606 ou sur alternative.ca.
À la recherche du frisson d'un soir.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue à cette nouvelle édition de Radio Tonique. Bonjour, chers auditeurs, et bon matin. Vous savez, la merveilleuse voix que vous avez entendue en tout début d'émission est celle de Marjolaine Legault, une jeune chanteuse qui devrait venir nous rencontrer à l'émission dans quelques semaines. Je l'ai enregistrée, non pas à son insu, mais presque, alors que j'étais assise à côté d'elle sur un banc de piano. Alors, en attendant la mise en demeure d'un avocat, je vais quand même vous présenter l'émission, mais je suis certaine que je vous ai simplement mise en appétit pour en entendre un peu plus de Marjolaine. Aujourd'hui, nous accompagnons Benoît Guérin dans une chronique sur l'intimidation à l'école. C'est vraiment de bon ton à quelques jours de la rentrée scolaire. Et nous recevons aussi M. Paul Hubert Legault, qui est à la fois collaborateur à l'émission, mais qui vient aujourd'hui parler d'un livre qu'il publie chez Québécois la semaine prochaine et dont le titre est « Roue de secours pour l'humain ». Alors, je pense qu'on en a besoin, effectivement, parfois. Nous avons passé un bel été et vous, Est-ce que vous avez trouvé qu'il faisait assez chaud cet été? Moi, je n'ai pas trouvé qu'il faisait très chaud, mais par contre, comme j'ai toujours aimé les orages électriques, alors là, je peux dire que j'ai été vraiment servie. Pour les gens qui aimaient les feux d'artifice, c'était merveilleux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mission de notre programme Radio Tonique. Vous savez, si vous allez sur le site internet de Radio Centre-Ville, vous allez voir, en passant, l'adresse, c'est radiocentreville.com. Alors, vous allez voir en haut, à gauche, le sigle de Radio Centre-Ville et tout juste en dessous, vous allez remarquer une phrase qui dit « Pour changer le monde ». Et ensuite, si vous continuez sur le site et vous allez jusqu'à l'émission Radio Tonique le mardi matin, vous allez voir encore là, en dessous de Radio Tonique, une simple petite phrase qui dit « Les gens qui changent le monde ». Alors là, vous allez vous dire, ils ont vraiment de la suite dans les idées, ces gens-là. Eh bien oui, on a de la suite dans les idées. Et pourquoi? Parce que les gens qui changent le monde, figurez-vous, c'est vraiment, on a toujours l'impression que c'est Barack Obama, j'espère, ou encore Nelson Mandela, ou Hubert Reeves, ou qui d'autre encore, qui prennent les manchettes et avec des initiatives merveilleuses souvent. Mais moi, je crois que les véritables gens qui changent le monde, ce sont chacun de nous, vous en particulier, moi aussi. Dans la mesure où nous réalisons que nous avons ce pouvoir de changer. Bon, je vous donne un exemple. Le sourire que vous pouvez afficher le matin en rencontrant quelqu'un, par exemple, est-ce que vous êtes au courant que ça peut changer sa journée au complet, que ça peut altérer toute la qualité de sa journée? Et la même chose pour un sourire que quelqu'un vous fait en rentrant au travail ou quand vous vous sentez bien reçu. Alors, c'est très simple, pourtant c'est très important. Mais vous savez, le premier sourire, le premier accueil du matin doit se faire pour vous. Vous devez au moins réaliser que, par exemple, quand on va au restaurant, vous savez, quand on est invité au restaurant, qu'est-ce qu'on se demande? On se demande d'abord qu'est-ce qu'on a le goût de manger et à quel endroit on va aller. Et souvent, les gens se lèvent le matin et ne se donnent pas la permission de se demander qu'est-ce qu'ils veulent vivre durant la journée. Tout de suite, en se levant, l'esprit est immédiatement focusé sur une tâche à faire, soit de se lever, de préparer les enfants pour l'école, ou d'aller prendre un bain, une douche, de s'habiller, etc. Alors, immédiatement, notre esprit est captif, prisonnier de la tâche que nous avons à faire en nous levant. Et ainsi, on passe à côté d'un moment très important dans la journée qui est de prendre le temps de se dire bonjour à soi-même, d'entrer en amitié avec soi-même au début de la journée. On va la vivre. Dans le fond, la seule personne qui nous accompagne toute la journée, c'est nous. Il n'y en a pas d'autre. On est 24 heures sur 24 avec nous, alors autant en profiter pour nous dire bonjour une fois de temps en temps, n'est-ce pas? Et aussi, en général, les gens réalisent pas que le pouvoir qu'ils ont, le pouvoir que chacun de nous a de préparer sa journée, de décider ce que nous voulons vivre dans cette journée-là. Et vous allez voir que si vous acceptez de prendre cette responsabilité-là, de façon surprenante, vos journées ne seront plus les mêmes, dans la mesure où vous serez alerte et vous deviendrez attentif à ce que vous allez vivre dans la journée. Alors, je voulais insister sur ce point-là ce matin parce que, au fond, changer le monde, c'est d'abord changer sa qualité de vie, changer sa journée. Et si on est plusieurs comme ça, à changer chacun notre vie, notre qualité de vie dans la journée, vous allez voir que ça prendra pas de temps que le climat va changer. Je parle pas nécessairement du climat planétaire, mais je parle du climat d'abord intérieur, ensuite du climat familial, et ensuite du climat au travail, etc. Et vous seriez surpris de réaliser jusqu'à quel point cette révolution, je peux dire, pourrait prendre de l'expansion. Alors, Essayons d'y penser. C'est vraiment une des choses importantes à faire. Et au fil des émissions qui vont suivre, comme je vous l'ai déjà dit, j'aimerais vous suggérer des choses comme ça qui pourraient faciliter notre qualité de vie. Vous savez, on vit dans un monde, aujourd'hui, une société qui donne beaucoup d'importance au sensationnalisme ou au spectacle, si vous voulez. Alors, on finit par croire que les gens qui changent le monde, ce sont des gens qui sont tape à l'œil ou qui font des choses que tout le monde voit. Mais souvent, c'est pas vraiment le cas. Et par exemple, prenez les gens qui vous ont le plus marqué dans votre vie. Vous remarquerez que ce sont des gens qui peut-être vous ont donné de petites choses ou qui ont fait de petits gestes au quotidien. De petits sourires, des attentions, du caring, comme on dit en anglais, ou qui ont pris soin d'aménager autour de vous des moments intéressants, des moments magiques. Alors, essayez de voir si vous pourriez pas, justement, à partir du matin, vous donner quelques petits instants juste avec vous pour poser quelques petits gestes magiques. Vous parlez aussi. Vous savez, ce que je vous dis là, ça peut apparaître à certains un petit peu moumoune, mais ça ne l'est pas du tout dans les faits. Au contraire, les récentes recherches en psychologie nous montre que chaque individu vit un peu dans la mesure de ce qu'il a décidé de vivre, et à moins qu'il n'ait rien décidé du tout. Et dans ce cas-là, eh bien, ce sont les événements de la journée ou le hasard des événements qui décident à votre place de ce que vous voulez vivre, un peu comme si quelqu'un vous amenait dans un restaurant que vous ne connaissez pas avec une nourriture que vous ignorez à l'avance. Alors, parfois c'est bon, parfois c'est moins bon, parfois c'est pas bon du tout. Alors, c'est à vous de voir si ça vous tente de prendre ce pouvoir-là que vous avez entre les mains et de créer un peu à la manière d'un cinéaste, si vous voulez, un peu comme si vous étiez un scénariste ou un metteur en scène qui décide de ce qui va se jouer ce jour-là sur la scène de sa vie. Et vous allez y prendre plaisir en travaillant au jour le jour, petit à petit. Vous allez voir, c'est amusant. Alors là-dessus, nous allons à la pause et nous revenons avec la chronique de Benoît Guérin qui porte ce matin sur l'intimidation à l'école. Alors, c'est Alexandre Poulain qui chante « La cigale et la fourmi ». À tout de suite.
Sans retenue, je gâche que t'as juste chanté. chanson. Je pense qu'on s'est mal compris, dit la cigale à la fourmi. J'suis pas venu pour te quêter de la bouffe, mais pour te dire que je prends la route. Hier, au cabaret du marais, René Lange de Lille m'a découvert. J'te dis pas ça pour faire mon vrai, mais à cette heure, il gère ma carrière. La fourmi lui répond de sa voix noire. Si tu vois Jean de la Fontaine, envoie-les donc promener de ma part. Sa fable, elle valait pas 5 cents. J'aurais tant voulu chanter pour passer le temps, peut-être juste t'accompagner en duo comme dans le temps. Au lieu de ça, je suis prisonnier de la prison que je me suis bâti. Le seul rêve qui reste à ma portée, c'est d'être une fourmi dans Love Story.
Bon, alors, mesdames et messieurs, on a beaucoup de... on a beaucoup de plaisir ici en studio aujourd'hui. Bonjour Benoît. Alors, tu voulais nous parler aujourd'hui d'un sujet, je pense, très important, puisque l'école débute dans quelques jours, oui. Et puis, tu voulais nous parler de bullying ou d'intimidation à l'école.
Oui, bonjour Jeannie Audrey. D'abord, effectivement, il y a beaucoup de plaisir dans l'air aujourd'hui. Le bullying ou l'intimidation. Pourquoi je dis bullying ou intimidation? D'abord, étant donné qu'on va en parler, on va peut-être nommer ça veut dire quoi. L'intimidation à l'école, c'est le mot qui est ressorti dans les dernières années. Mais pendant longtemps, c'est surtout du côté anglophone qui ont ciblé puis nommé qu'est-ce que c'était le problème. Et des fois, je me demande s'ils n'ont pas mieux ciblé avec bullying, qui est un terme un peu plus large que le terme d'intimidation. Intimidation, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se fait intimider un petit peu dans un coin. On voit pas dans ce mot-là le fait qu'il y a de l'agression qui est possible, mais il y en a. Alors, l'intimidation peut aussi être une forme d'agression, de coups de pied, de coups de poing, etc. Hein? Ça me semble, dans le mot intimidation, on voit pas tout de suite les coups de pied et les coups de poing. Il y a. Ben, moi,
en tout cas, pour moi, dans le bullying, il faut avoir un peu l'air d'un bif, tu sais, puis un gros bœuf. Et bullying, ça fait un petit peu bœuf.
Non, tu vois, c'est un peu le contraire. Le bully, c'est celui qui subit l'intimidation, en fait. Mais là, on va lâcher le bullying, puis on va en parler en français. Alors, celui qui est intimidé, en fait, j'ai trouvé une définition ici dans une revue, là, Le Clinicien, qu'on appelle, qui date de 2004. Et on nous dit que la victime d'intimidation, il y a quelques critères. Il faut que ça soit quelque chose de répété. C'est quelqu'un qui se fait niaiser à répétition à l'école, là, et d'action négative contre lui. Et qu'il y ait comme... que ça soit pas juste, là, le rapport de force. Ils sont 4, il y en a un dans un coin, puis il se fait niaiser, ou quelque chose comme ça. Ou il est plus gros, ou il est plus vieux, ou il est... Alors, ça, c'est des choses qu'on voit dans l'intimidation, règle générale. Mm-hmm. Alors, l'intimidation. Là, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est l'intimidation à l'école, mais aussi en dehors de l'école. L'intimidation qui a lieu durant l'enfance, on pourrait dire autour de 5 ans, 4-5 ans, ça dépend quand est-ce qu'on se retrouve à la garderie. Dès qu'on se retrouve dans socialisation entre enfants, jusqu'à peu près la fin de l'école secondaire. Alors, est-ce qu'il y a de l'intimidation? D'après toi, Jeannie?
Il y en a plein d'intimidation, puis il y en a autant chez les enfants que chez les adultes. En ce qui me concerne, moi, je pense que j'en vois autant dans les... Mais c'est vrai que je suis psychologue, je reçois des gens qui sont harcelés. On appelle ça le harcèlement moral au travail quand on est adulte. Mais ça commence souvent dans les écoles, ce comportement-là.
Oui, effectivement. Et ce comportement, les études nous disent un peu partout que dans à peu près tous les pays occidentaux là, qui ont des systèmes scolaires semblables, les statistiques se ressemblent. Alors, je vous donne une idée. On dit que 3/4 des ados, dans une des études qui a été faite, 3/4 des ados, 3/4 ont été victimes d'intimidation au moins une fois dans leur vie.
Es-tu sérieux?
3/4. Et sont victimes d'intimidation chronique à travers le monde occidental au complet, 1 enfant ou ado sur 10.
Qu'est-ce que tu appelles l'intimidation chronique?
Intimidation chronique, c'est que tu rentres en première année, puis tu sors en secondaire 5, puis d'un bord à l'autre, tu as été un rejet. Ah. Un intimidé. Ça veut dire quoi, un intimidé? Hein? Et on va se le mettre dans la tête. Je pense qu'on va le voir tantôt dans les causes. Comment ça se fait qu'on voit pas ça comme un gros problème dans notre société? On va voir tantôt qu'une des raisons...
Il y a beaucoup de choses dans notre société qu'on refuse de voir comme des gros problèmes, justement.
Je pense, et peut-être qu'on les oublie, mais en tout cas, moi, je peux pas les oublier. Je travaille dans une polyvalente, et on peut les oublier. On va reparler tantôt aussi. On peut ne pas entendre dans une polyvalente. On peut ne pas écouter ce qui se passe autour. Mais moi, ce qu'il y a là, je vous parle de mon expérience vitement. Je vous dis, moi, en tout cas, là, comme quand je recule dans mon passé, là, au primaire, oui, il y avait des rejets. Je pourrais même les nommer. Évidemment, je le ferai pas. Mais je me rappelle, même qu'il me semblait que dans ma petite tête d'enfant, évidemment, je pensais pas à ça. Là, c'était automatique. Mais j'ai tout de suite eu l'impression que ou t'étais rejet ou t'étais rejeté. Hein? Alors, tu faisais partie de ceux qui rient du monde ou tu faisais partie de ceux dont on rit. Alors, il y avait deux gangs, puis c'était à peu près comme ça. Il y avait comme un sujet. C'était vraiment important au primaire pour secondaire. Niaiser le monde, passer les microbes d'un tel, puis rire de l'autre, puis le traiter de moumoune, puis de je sais pas quoi. On était vraiment très, très, très souvent sur ce genre d'activité.
Toi, t'étais du côté des...
De ceux qui riaient, évidemment. J'essayais de me tenir de ce côté-là le plus possible. De temps en temps, on perd pied, on se fait intimider, on tombe dans le 3 sur 4. Et là, c'est nous autres que, moi, je me rappelle très bien la journée où c'est moi qui ai tombé dans les intimidés à tabarnouche. Je pense que ça marque, là, au plus profond du cœur, quand tu te retrouves avec toute la gang qui est contre toi, puis que là, tu te retrouves le tweet qui se fait botter le cul, là, une fois. Puis après ça, là, tu développes ton verbe, hein, puis tout ce qu'il faut pour plus jamais te retrouver là, quitte à niaiser quelqu'un. Parce que moi, là, dans mon petit cœur, là...
Tu veux dire que le fait de devenir un attaquant, ça protège la personne d'être attaqué ou
pas? Oui. Je pense vraiment que c'est une culture comme ça, là. C'est un peu comme, je sais pas, moi, c'est pas mon cas, là, mais naître dans une famille de mafioso, là, tu sais. Il y a pas vraiment de gros choix, là. T'en fais partie ou tu prends le bord du fond de l'eau, là, tu sais. Il y a comme pas de choix qui est vraiment possible. Alors, moi, j'ai vu ça au primaire. Puis après ça, en rentrant comme enseignant au secondaire, je l'ai vu vraiment très étendu au secondaire aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai vu au secondaire? Quand je me promenais dans les corridors, moi, chaque début d'année, en général, là, je rentre dans le corridor puis j'écoute. M'en vas tout seul. Alors, souvent, on rentre 4 par 4. Ça nous donne du courage, même les enseignants. On s'en rend pas compte. On s'en va rejoindre notre gang. On se colle avec. Parce que ça nous aide à passer à travers. On s'en rend pas compte, mais dans les écoles secondaires, là, quand on marche dans un corridor pour on écoute, là, on va en entendre du monde qui se font agresser. L'agression, là, on dirait que c'est le premier pas vers l'intimidation. Alors, on agresse de façon, on pourrait dire, une agression simple. Et quand ça
c'est quoi, c'est une agression simple?
L'agression simple, là, c'est la gang qui t'assit sur le bar, puis il passe une fille, puis il dit « Ah, c'est-tu qu'elle est, c'est-tu qu'elle conne? » Un comme ça en passant, là. Ça, là, c'est monnaie courante dans les corridors de ma polyvalente, comme je pense dans le corridor de la plupart des écoles. C'est un jeu, hein? On niaise le monde, on se niaise. Puis là, quand t'es en pognon, il dit, ben, c'est rien pour niaiser. Alors, on verra plus tôt, d'ailleurs, ben, on peut le voir maintenant.
Comme d'ailleurs dans le monde du travail, quand on parle d'harcèlement, plus tard, la personne qui va dire, hey, moi, je me fais harceler, les autres vont dire, ben non, c'était juste une joke, c'était juste de l'humour.
T'sais. Exactement, ça ressemble. C'est vraiment le même truc, c'est banalisé. D'ailleurs, là, on peut se demander, écoute, si c'est gros comme ça, à polyvalente, là, on prend mes statistiques, puis ça fait combien de rejets qui se promènent dans mon école? Ben sur 3000, ça fait 300 à peu près. 300 jeunes. Ils sont du matin jusqu'au soir, des fois 30, 50, 100 fois par jour, ils se font traiter d'épais, de con, de sans dessin, de moumoune, de lait, de bègue, parce qu'ils peuvent, hein, on le sait. Qu'est-ce qui crée l'intimidation? C'est dès qu'il y a une petite différence, hein. Puis s'il y en a pas, on va en prendre un qui a pas de différence. Mais bon, s'il y a une petite différence, c'est sûr que c'est toi le premier qui va passer.
Être gros, avoir les
un
cheveux
peu plus
rouges.
Gros, avoir les cheveux un peu plus rouges. J'ai un.
Les dents longues, là,
j'ai un de mes neveux qui a un problème d'élocution. Je peux-tu vous dire qu'il l'a jamais réglé, son problème? Ça aide pas beaucoup à régler nos problèmes quand il y a des jeunes qui 100, 150 fois par jour nous traitent de cons, d'épais, de morons. Hein?
Ça crée... Tu me disais tout à l'heure que dans un autobus, même en rentrant dans l'autobus scolaire le matin, quelqu'un peut se faire harceler combien? 60 fois, tu m'as dit, tu sais, dans le parcours. Là.
Oui, bien sûr. Ben, ces jeunes-là,
ça commence bien une journée.
Il y en a qu'on empêche d'embarquer dans les autobus. Il y en a qu'il y a toutes sortes de trucs aberrants. Là. Ils vont les frapper à gauche, à droite. Personne ne peut se touler. C'est la loi du silence. Ils vont se faire rentrer. Ils vont se faire baver continuellement. Alors Ça
se fait toujours en cachette des adultes. Parce qu'il y a des adultes là-dedans, il y a le conducteur d'autobus, il y a des professeurs, il y a du monde à l'école qui sont des adultes et qui pourraient intervenir à ce moment-là. Comment ça se fait que ça prend de l'ampleur comme ça?
OK. Les adultes, en général, là, il y en a beaucoup moins. Les adultes, là, pendant la récréation à la polyvalente, il y en a combien? Il y a une douzaine d'intervenants qui se promènent dans les corridors. Ils vont pas jaser avec les jeunes. S'ils jasent avec une gang de jeunes, ils sont pas avec les autres. Ça, qu'ils se promènent. Donc, ils entendent pas ce qui se dit clairement dans les sous-groupes. 12 adultes pour 3000 jeunes. Voyons donc. On peut pas pénétrer. De toute façon, nous, comme adultes, on s'évertue à croire que c'est bon que les jeunes restent ensemble pour se former une identité, pis etc. Hein? Peut-être. Mais peut-être que ça serait bon qu'il y ait un peu plus souvent des grands frères puis des grandes sœurs pour leur montrer le chemin puis pour leur indiquer qu'est-ce qui peut causer des torts importants. Et parce qu'à l'école, on n'a presque plus de cours, hein, où on parle de ça. On les a tout enlevés encore avec la dernière réforme, là. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de cours où on parle de ça. C'était des cours où on faisait une jaser, c'était du niaisage. C'est du niaisage, ne pas être harcelé à journée longue. Comment on fait pour apprendre quand on est harcelé comme ça? Comment on fait? C'est vraiment un problème central. Alors, moi, ça me fait rire quand je vois des grosses réformes pour changer la manière d'écrire puis de parler le français. Puis je me dis, commencez donc par créer un climat sain dans notre école. Puis vous allez voir que les résultats vont peut-être rentrer aux portes. Là. Ça, puis une couple de variables là, qui manquent.
C'est juste qu'il faut savoir c'est quoi un climat sain.
Eh oui, oui, il faut être capable de le nommer, puis c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui, on essaie de le préciser. Est-ce que ça a déjà été précisé? Est-ce que moi, je viens de l'inventer, ce truc-là? Je reculais en 2001, on est en 2008, à Enjeu Radio-Canada, le 9 octobre, un reportage super bien fait sur l'intimidation. Il nous en montre un peu partout, il nous montre des solutions, il nous montre comment ces problèmes-là sont créés, il nous montre à quel point un jeune peut être marqué au fer rouge à vie, avoir envie de se tuer tellement c'est lourd.
C'est quoi le titre de...
Le reportage, le titre, c'est « Jeu d'enfants ». Malheureusement, j'ai essayé de me le procurer à Radio-Canada. Je donnerai les coordonnées tantôt, si vous voulez vous le procurer. Je peux vous les donner maintenant, là. C'est le 514-597-7825. Malheureusement, ils m'ont jamais retourné mon appel à date. J'essaie d'avoir le reportage. Il est supposé être disponible à Radio-Canada. Mmh. Alors, ça, c'est une des manières possibles. Moi, ça se fait que ça a passé. Cette journée-là, là, ça a passé à la télévision, ça a fait scandale. Ça s'est jasé dans mon école, ça s'est jasé d'une coupe d'école. Là, on a comme décidé que c'était important. Là, on a dit, peut-être que les profs intéressés, vous pourriez mettre le vidéo dans votre classe, une fois de temps en temps. Rien d'organisé plus que ça, pas dans ma commission scolaire. Mm-hmm. Il y a des commissions scolaires, comme celle de Montréal, dont je veux parler particulièrement, parce que eux, ils ont un peu fait plus que ça. Ils ont plus qu'effleuré, ils ont mis des politiques sur place. On en reparlera.
OK, garde ton souffle, on revient après la pause. C'est très intéressant. On va voir aussi comment on réagit et quels sont les moyens employés pour... contrer ce bullying. OK. Alors, à tout à l'heure.
C'est tragique, si souvent c'est comme ça, faut savoir vivre avec ça. C'est injuste, si souvent on travaille, on crève, ça finit là. C'est la guerre, l'autre bord, on s'en fout, on s'endort comme des anges. C'est tragique, si souvent, c'est pas grave, si ça vient jamais chez moi. C'est tragique, l'Amérique. Si tragique, l'Amérique. C'est fragile à la fin, le Nord-Américain, triste destin. Beaucoup d'amis, tu t'enrichis la vie, y'a pas de soucis. Mais quand le téléphone au grand jamais ne sonne, là c'est l'ennui. C'est fragile à la fin, ce système de rien, tous ces fusils. C'est fragile, l'Amérique. Si fragile, l'Amérique. C'est tragique, l'Amérique. Si tragique, l'Amérique. Pour vivre en Occident où il pleut de l'argent, y'a pas de secret. Quand tu vois de la misère, tu dis qu'elle exagère à la télé. Assis dans le restaurant, on se gave, on se plaint d'être trop bien. C'est facile pour nous. On est si bien chez nous, loin des folies. C'est facile, l'Amérique. Si facile, l'Amérique.
magique, l'Amérique, quand y'a Dieu et le fric main dans la main.
Sébastien Lacombe avec la chanson « C'est tragique » sur étiquette Atlantis. Avant de quitter pour la pause, on parlait d'un problème assez intéressant, assez spécifique et surtout très actuel. Et tu nous disais que Radio-Canada avait produit un document là-dessus qui s'appelait « Jeux d'enfants » qui avait été montré en 2001. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu davantage de qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ce document-là donne des moyens concrets pour contrer le phénomène d'intimidation à l'école?
OK. Alors là, on va en parler des solutions. Évidemment, il y a ce document-là, mais je vous ai dit tantôt que moi, je n'ai pas réussi à me le procurer. Si vous réussissez à vous le procurer, s'il vous plaît, et là, je vais tout de suite rappeler mon adresse courriel, c'est important, faites-moi en part. On apprécierait beaucoup ici à l'émission, on s'en parle souvent, être en contact avec les auditeurs, c'est important pour nous. Alors, s'il y a quelque chose, puis vous réussissez à vous le procurer, ou vous trouvez que c'est pas le bon numéro de téléphone, écrivez-moi, Benoît, citoyen du monde, A commercial, yahoo.ca, yahoo.ca. Alors, vous m'écrivez à mon adresse courriel et ça va me faire plaisir là, d'échanger avec vous là-dessus. On pourrait aider d'autres auditeurs ensuite. Alors, évidemment, il y a ce reportage-là qui en est un. Mais pourquoi on n'est pas familiarisé? Comment on fait pour se familiariser? Pourquoi d'abord se familiariser avec l'intimidation? Moi, je trouve très important d'en parler. C'est ça, cette chronique-là. C'est-à-dire que sur cette planète-là, on souffre de deux choses principalement. On souffre de problèmes environnementaux desquels on est beaucoup trop peu familiarisé. Et l'autre truc, ben c'est tout ce qui a trait aux agressions. Et ça peut finir par des conflits atomiques puis des conflits chimiques. Mais l'agression, c'est la même agression qu'on voit dans nos écoles quand on parle d'intimidation. Alors voilà pourquoi, dans une perspective de citoyen du monde, il faut travailler là-dessus. C'est la priorité. Bien avant de développer des choses plus sophistiquées en éducation, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'agression. Alors on fait comment? Alors, pour s'approcher de la réalité, on peut aller voir un film, par exemple le film Benix qui vient de sortir. C'est vraiment un film majeur, c'est super intéressant au point de vue technologique, c'est bien fait. On voit là quelqu'un qui est victime d'intimidation, c'est extrêmement touchant. Alors on va dire, mais pourquoi aller voir ça? Ben un, c'est intéressant au point de vue artistique et ça me met plus en contact. Comme moi qui travaille dans une polyvalente, ben je suis bien plus porté à agir là-dessus.
C'est-tu un film québécois ça?
Non, c'est pas un film québécois, je pense que c'est britannique ou australien, un des deux, mais c'est extrêmement bien fait, ça vaut la peine d'aller voir. L'histoire est bien monté aussi. C'est pas un reportage. C'est comme un autre angle. Ce qu'il y a à Radio-Canada, c'est intéressant, mais comme je disais, le reportage, c'est pas sûr qu'on peut se le procurer. Par contre, et j'ai vérifié, il y a moyen d'aller sur le site de la Commission scolaire de Montréal, qui est une des rares commissions scolaires que je connais, qui vraiment travaille au niveau de l'intimidation, fait beaucoup de choses. Depuis le début, là, que quand Radio-Canada nous a sensibilisés en 2001, puis même avant, il y a des gens là-bas qui travaillent, ils montent des instruments, ils ont des documents qui sont disponibles en ligne, ils ont des références qui sont disponibles en ligne. Moi, là, j'ai un neveu qui est victime de ça, j'ai une nièce qui l'a été, j'ai la fille d'une de mes amies, c'est incroyable. On parlait de statistiques de 1 sur 10 à temps plein, puis de 7 sur 10 à temps partiel. Mais ça veut dire qu'on va être entouré de ça. Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, mais regarde, Benoît, moi, par exemple, j'ai un enfant.
Oui.
Il y a 10 ans, disons, mon enfant, il est en 5e année.
Oui.
Il est victime d'intimidation.
Oui.
Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme parent?
OK. Alors, moi, ce que je vous suggère en premier lieu, vous avez besoin d'aide, hein? Quand moi, je me suis retrouvé dans des situations difficiles, d'abord, je trouve que la première affaire qu'il faut développer, c'est aller chercher de l'aide, à pas essayer de réinventer la roue. Où on va? Je vous donne l'adresse Internet, là. C'est important. C'est la Commission scolaire de Montréal, si vous voulez retenir les lettres. CSDM, Commission scolaire de Montréal. Alors, vous faites www.csdm.qc.ca. Vous allez arriver sur cette adresse-là. Ce que vous avez à faire ensuite, c'est cliquer sur la section jeunes. C'est votre jeune qui est touché. Vous cliquez sur jeunes et vous allez dans problèmes d'ado. Cette section-là. Donc, jeunes, problèmes d'ado. Et vous allez vous retrouver avec une série de documents qu'ils ont composés, qui s'adressent aux parents, qui s'adressent aussi aux jeunes. Il y a une série de références que vous pouvez contacter pour vous faire aider. Vous ou votre jeune, ou les deux. Alors, vraiment, là, il y a plein de choses intéressantes qui sont sur ce site-là. Ça, c'est ce que je peux vous donner de plus actuel, de plus qui fonctionne bien ici au Québec, là. Parce que malheureusement, au Québec, on n'est pas rendu aussi loin que d'autres pays, par exemple, européens. En Grande-Bretagne, le film de Enjeu, il nous parlait de ce pays-là qui est beaucoup plus avancé que nous. Première chose, donc...
Une question que j'aimerais poser, Benoît, oui. C'est quand un jeune est pris avec un problème d'intimidation, est-ce qu'il est porté à en parler à ses parents ou s'il est porté à garder ça pour lui?
L'intimidation, presque de façon unanime, les jeunes n'en parlent pas. Pour les jeunes, il y a un enjeu important, c'est qu'ils veulent avoir leur place à l'école. Alors, pour eux autres, la pire affaire, ce serait d'être exclu. Être intimidé, c'est faire partie d'une manière très négative, mais faire partie quand même de la gang. Alors, pour eux autres, ils ne peuvent pas envisager le fait d'être exclu. Pour eux autres, trahir, c'est la pire des choses. Ils pensent qu'ils pourront jamais s'en sortir. Alors, les jeunes, ils font tout pour ne pas en parler.
Alors, comment on reconnaît que notre jeune est victime d'intimidation à l'école?
OK. Comme on a peu de temps, je vous invite à aller vraiment voir sur le site de la Commission scolaire de Montréal qui vont vous donner des trucs, là. Il y en a une multitude, là. Est-ce que votre jeune change de trajet le matin en allant à l'école? Est-ce que les notes de votre jeune ont tendance à baisser? Mais là, il ne faut pas se mettre en mode panique à la première affaire qui se passe, là. Mais quand même, il faut être alerte, il faut vérifier. Alors, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, quand on parle de solutions, évidemment, maintenant qu'on le sait, il y a un problème majeur. On sait qu'au niveau du ministère, il n'y a pas des budgets plus importants de mis là-dessus, puis il n'y a pas des structures plus importantes pour aider les jeunes et les parents, et prévenir, pas juste guérir, là. Mais comment on fait? Ça existe, là. Ils nous l'ont montré dans le reportage d'Enjeu. Il y a moyen de prévenir ces problèmes-là, et ça marche.
Comment?
Ben, par exemple, il y a des écoles qui ont installé des systèmes dont les jeunes, en début d'année, sont avisés. Ici, il n'y a pas d'intimidation, mon ami. On va t'expliquer comment ça fonctionne, comment on décèle l'intimidation, ils mettent des caméras pour la déceler, ils le disent aux jeunes, ils instruisent les enseignants et les membres du personnel à reconnaître l'intimidation, ils la détectent et ensuite ils aident les jeunes à s'en sortir, ceux qui sont intimidateurs ou ceux qui sont intimidés. Alors, il y en a des solutions. Le problème, c'est qu'au niveau politique, on bouge quand il y a des pressions. Alors, évidemment, vous pourriez, à titre seul, aller faire des pressions auprès de votre député, auprès du ministère, ou plus concrètement auprès de votre école, de votre conseil d'établissement, aller le mentionner. Vous avez le droit d'être là comme parent, vous avez le droit de le mentionner. Puis si vous n'êtes pas parent, puis vous trouvez que c'est fondamental, c'est ces jeunes-là, hein, on est tous responsables de nos jeunes. Alors, mais vous pouvez vous adresser aux structures politiques pour en parler. Ça va de soi. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est de se joindre à des groupes qui travaillent sur les mêmes affaires. Et là, on n'est pas comme en environnement avec des organismes comme Greenpeace et compagnie qui travaillent depuis longtemps là-dedans. Il n'y a pas grand monde qui travaille depuis longtemps et qui ont des grosses structures au niveau de l'intimidation. Alors, on va vers quoi? On va vers des organismes de citoyens ou des citoyens comme à l'INM. Et là, je rappelle l'adresse, INM, Institut du Nouveau Monde, .qc.ca. L'INM, qui est notre organisme québécois, comme citoyen, on peut se réunir et ils traitent de toutes sortes de problèmes. Alors, l'INM, ils peuvent traiter d'un problème comme l'intimidation. Vous trouvez qu'on n'en parle pas assez. Vous appelez l'INM, vous suggérez qu'on avance là-dedans puis qu'on fasse des réunions puis des forums puis des conférences. Ben, c'est ça qui c'est le but de l'INM. Ils vont les organiser. Une autre façon de se réunir et de pas rester tout seul dans notre coin parce qu'on sait que c'est plus dur à travailler, ben, c'est d'aller avec un organisme qui permet la réunion des citoyens du monde. C'est une autre façon puisque c'est les mêmes valeurs qu'on travaille, qu'on réfléchit et qu'on travaille dessus. L'organisme qu'on connaît ici au Québec...
Autrement dit, c'est de ne pas rester seul devant le problème, de ne pas s'isoler.
De ne pas s'isoler, puis d'y aller avec nos organismes locaux. L'INM est un organisme local, ici, du Québec, puis l'autre organisme dont je parle occasionnellement au niveau des citoyens du monde, c'est le MapMonde. www.mapesmonde.org. Pourquoi? Parce que c'est un autre endroit où les citoyens peuvent se parler, chercher des solutions ensemble, et c'est beaucoup plus agréable que chacun dans son coin.
Benoît, le problème d'intimidation, est-ce qu'on le retrouve à l'université aussi? Est-ce que ça, comment ça évolue, ça? Si quelqu'un, par exemple, ne fait pas, ne porte pas attention ou ne guérit pas ce problème-là, ne corrige pas ce problème-là?
Évidemment, Jeannie-Audrey, tu le sais autant que moi, toi qui travailles plus au niveau des adultes. Ce qu'on appelle intimidation, ce terme-là est comme réservé, entre guillemets, aux enfants et aux ados. Ensuite, ça porte d'autres noms. Tu nommais tantôt le harcèlement moral, mais effectivement, c'est la forme peut-être majeure qu'on retrouve, ça peut être du harcèlement sexuel. Quand on banalise le harcèlement, c'est pas étonnant que quand on devient adulte, on le banalise ou pour le faire ou pour le subir.
Tu sais, en terminant, Benoît, moi, ça m'inquiète un petit peu, tu sais, de voir que peut-être on s'en va vers une société où il va y avoir plein de caméras à peu près à tous les 25 pieds pour surveiller des individus au cas où il y aurait des écarts de comportement qui sont inacceptables. Tu trouves pas ça un petit peu inquiétant, toi?
Ben, moi, je dirais que ce qui est de plus inquiétant dans notre société, c'est l'acceptation tacite qu'on a des comportements actuels. Les caméras en tant que telles, dans le domaine public, là, si on n'a rien à cacher, les caméras, c'est pas un gros problème, là. On parle pas de mettre des caméras dans les maisons, là. On parle du...
Ça s'en vient.
Ouais, mais c'est un autre sujet. Moi, je trouve qu'il ne faut pas les mêler. Si c'est comme ça qu'on doit procéder pour aider nos jeunes à avoir la paix d'esprit, là, mes 300 jeunes de la polyvalente, puis les 300 jeunes de chaque école, puis les pas 300, mais les 7 sur 10 de mon école qui vont être victimes de ça, mais je dis oui, au plus sacré en part ça. Et ensuite, on fera très attention au niveau éthique.
Pour aller vers la prévention ensuite.
Mais bien sûr, bien sûr que c'est vers la prévention qu'il faut aller ensuite. Mais pour ça, c'est du plus long terme, comme tu sais, hein, la prévention.
Et puis, Benoît, en parlant de long terme, je pense que c'est un sujet sur lequel il faudra revenir en cours de route. Merci infiniment. C'est une belle chronique que tu nous as donnée ce matin sur l'intimidation. Et c'est pour ceux qui veulent la réentendre, bien, vous pouvez toujours aller sur le site de Radio Tonic, à Radio Centreville, sur Internet. Alors, merci beaucoup, Benoît.
Merci beaucoup, Jeannie-Audrey. C'est agréable.
Eh bien, maintenant, on va à la pause avec une chanson d'Annie Villeneuve dont le titre est « Un ange qui passe ». À la suite de quoi, nous revenons avec Paul-Hubert Legault qui nous parlera du livre qu'il va publier dans quelques jours qui s'intitule « Roue de secours pour l'humain ». Alors, à tout de suite.
De rester forte, de rester avec l'image.
À Radio Centre-Ville avec Paul-Hubert Legault.
Bonjour,
bonjour
Jeannie.
Paul. Bon, qu'est-ce que c'est que... Alors, on a parlé tout à l'heure de ce livre que tu devais lancer cette semaine qui va paraître chez Québécois.
Aux éditions Québécois, oui. Le lancement devrait se faire à la fin du mois d'août. Juste avant les agendas, m'a-t-on dit aux éditions Québécois.
Et le titre du film, c'est « Roue de secours pour l'humain ».
Il n'est pas encore en version film, mais en livre. Hey, c'est un beau lapsus, j'aime ça. Faire
ça
un
va
film
venir,
avec ça.
Va
ça.
Venir.
Oui, hey, j'aimerais ça.
On en a besoin à ce point-là de la roue de secours? Est-ce que tu crois qu'il faut la mettre dans le coffre
arrière? Son coffre arrière. Oui, ben c'est exactement ça. C'est un peu une image pour monsieur et madame tout le monde. C'est un incontournable. Okay? Ça prend une roue de secours pour la voiture. C'est la même chose pour soi. Et quand on n'a pas de roue de secours, ben c'est là qu'on se sent démuni, puis il faut aller consulter, il faut aller voir, il faut aller chercher de l'aide.
Je lisais dans le communiqué de presse que ce livre vous offre dans un premier temps un constat psychosocial de ce que nous sommes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce constat psychosocial de ce que nous sommes? Est-ce que tu pourrais m'en parler?
Oui, bien, certainement. Le constat psychosocial, c'est de repérer ce que nous sommes sur le plan individuel face à différents aspects de nos vies. Alors, d'abord, au niveau du couple, au niveau de l'éducation, comment on se situe par rapport à l'éducation, la santé, comment on se situe par rapport à l'emploi, ou même les températures, juste à regarder l'environnement. C'est un bel exemple qu'on a eu cet hiver et cet été pour s'apercevoir finalement que nos repères ne tiennent plus la route. Alors, le constat psychosocial, c'est de s'apercevoir justement que tout ce qui était le establishment avant, tout ce qui était coulé dans le ciment, n'a plus sa place. Okay, on ne peut plus se fier aux températures pour voyager. On ne peut plus se fier sur les anciennes notions de couple pour bâtir notre nouvelle, notre couple, parce que ce qui était là avant ne tient plus la route.
Autrement dit, la transformation n'est pas seulement une transformation individuelle, mais c'est toute la société qui est en train de se transformer.
Exactement. Mais pour que la société se transforme, il faut d'abord, et ça explique qu'au départ, c'est nous qui nous transformons individuellement. On n'a pas le choix.
C'est par là que ça commence.
Exactement. Ce que nous sommes sur le plan individuel, nous faisons que le refléter sur le plan familial, social, national, international et même planétaire. Mm-hmm. Alors avec le phénomène de la mondialisation, on a une vision macro de ce que nous sommes sur le plan individuel. Et c'est ça le constat psychosocial, qui n'est pas toujours évident, qui dérange les gens. Et ce que j'entends aussi, c'est on a tout ce qu'il faut pour être heureux et les gens le sont de moins en moins. Puis quand on dit tout ce qu'il faut, là, c'est on parle d'une maison, une relation affective, un travail à temps plein ou à temps partiel, whatever, plein de bebelles pour s'amuser, pour avoir
extérieur,
du plaisir. Oui, c'est toujours extérieur.
Moi, je dis souvent, moins il y a de contenu, plus il y a de décoration. Je pense à Noël, par exemple, ou à des fêtes comme ça, où il reste presque plus rien à part les cadeaux.
On compense
avec les décorations.
Tout à fait. C'est une très, très, très belle image. Ça démontre bien, justement, que c'est ça. On est sur la para, puis moins il y en a, ben plus il y a d'autres choses, plus il y a un contenu qui est là. Hein. J'aime bien cette image-là. Alors, c'est un peu ça, le constat psychosocial. Et ensuite, de s'apercevoir que nos repères ne tiennent plus la route, et là, ça force l'individu à aller voir en dedans de lui pour se construire de nouveaux repères.
Mm-hmm.
OK? Ouais. Et c'est là que le travail commence. On n'a pas le choix. Alors, les jeunes d'aujourd'hui, comme les moins jeunes, sont obligés de voir comment construire leur vie.
Oui, mais dans ton livre aussi, tu parles de moyens efficaces de constater l'état psychique et physique. Quels sont ces moyens que tu proposes, toi, dans le livre?
C'est que on se rend compte que, vous savez, on a chacun notre façon de vivre, d'avoir nos soupapes. Il y en a que c'est le sport, il y en a que c'est le yoga, il y en a que c'est la cuisine, il y en a que c'est la couture. Il y a plusieurs façons de se détendre. Sauf qu'on s'aperçoit que l'heure que tu choisis pour te détendre, c'est bien agréable. Pas de problème avec ça. Je pense que ça vaut la peine de le continuer. Là, ça a raison d'être, OK? C'est quasiment... Ça fait partie de la roue de secours, je dirais. Sauf que c'est quand on en a le besoin où on se sent le plus démuni. Mm-hmm. Et quand quelqu'un nous fait chaque fois la même chose, ou qu'on vit une grande frustration, ou une grande responsabilité, ou une performance psychologique ou physique qui est demandée là sur le champ, c'est là que ça prend des outils. Et c'est souvent là où on se sent le plus démuni. Alors, c'est d'évaluer psychologiquement et physiquement ce que nous sommes. Mm-hmm. Et grâce aux nouvelles technologies qui sont au service des émotions, ça nous permet d'avoir un portrait de soi. Et ensuite, quand on a vu à l'écran, avec un capteur infrarouge, quel est notre portrait intérieur.
OK, donc à ce moment-là, tu proposes un instrument.
Oui, tout à fait.
Qu'on plug sur un ordinateur, par exemple, et qui mesure notre état d'esprit.
Exactement, qui vous donne le portrait de ce que vous êtes intérieurement. Et ensuite, je vous donne des trucs, justement, comment modifier, harmoniser votre état entre le cœur, le cerveau et le corps. Et quand on réussit à harmoniser ces trois aspects-là, c'est plus facile de réagir soit à une grande frustration, à une grande responsabilité ou à une performance physique ou psychologique ou même un grand stress.
OK. C'est quoi cet instrument-là qui permet de...
C'est un logiciel qui vient de la Californie qui nous permet, qui est avec un capteur infrarouge, qui donne une lecture de votre rythme cardiaque à travers des jeux. Alors, le même logiciel sert pour des enfants qui souffrent du trouble d'apprentissage, du déficit d'attention, les enfants du Ritalin, jusqu'aux personnes du troisième âge qui ont de la difficulté à gérer la mort, par exemple. Ça vous permet de vous connecter à ce que vous êtes.
Okay.
Et de moduler votre rythme
cardiaque.
Ça donne
un portrait de ce qui se passe en dedans, finalement.
Dans un premier niveau d'application, c'est exactement ça. C'est un portrait.
Et ça, on peut l'acheter partout chez Jean Coutu?
Pas vraiment, non. Pas vraiment. Mais même si on enlève le logiciel, les trucs qui sont donnés, c'est d'abord, comme dans n'importe quelle discipline, que ce soit le yoga ou le sport, c'est d'abord apprendre à respirer. Puis si on l'oublie...
Premier instrument de réharmonisation de soi, c'est la respiration.
Voilà. Puis on oublie ça. Même si on le sait, même si c'est un réflexe que de respirer, là où ça se garde, c'est qu'on est tellement de plus en plus dans un rythme effréné, dans une société de performance, qu'on en oublie la base qui est la respiration. Ensuite, on va déplacer sa conscience au niveau de notre rythme cardiaque.
On oublie vraiment les choses essentielles qui sont très simples à la base, finalement.
Tout
à l'heure, au début de l'émission, je parlais de se dire bonjour le matin, de prendre le temps de se dire bonjour. Là, vous arrivez avec des trucs, quand tu arrives avec des trucs comme la respiration, je me dis, c'est des choses qu'on devrait pratiquer ça en première année à l'école primaire, finalement.
Tout à fait. Des classes qu'ils font au niveau primaire où quand un enseignante sent que le niveau est trop excité, elle va même faire de la méditation, mettre les jeunes dans un état plus harmonisé. Ah, ça se fait de plus en plus.
Dans le communiqué de presse aussi, Paul, il est question de trucs et astuces. Je vous propose des trucs et astuces dans la gestion des performances du stress. Et, alors, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de truc? Je te donne un choix entre un truc ou une astuce, selon ce que tu voudras.
ça se ressemble, oui. Un astuce, ça demande plus de travail, puis un truc, ça peut s'appliquer un petit peu plus vite. Il nous reste une minute seulement? Alors, on a un truc très, très, très vite. Vous êtes en automobile, vous faites couper par quelqu'un, OK? Mm-hmm. Et là, votre taux d'adrénaline monte, OK? Sachez que 15 secondes plus loin, la personne qui vous a coupé le sait peut-être même pas, OK? Puis vous, vous êtes encore dans un état tout débalancé parce que la personne vous a coupé.
Mm-hmm.
OK?
Oui.
Et là, vous êtes plus à risque. Votre rythme cardiaque monte, puis là, vous faites une histoire, une bulle dans votre tête, vous êtes plus concentré sur la route, et là, vous êtes plus à risque. Votre taux d'agressivité augmente. C'est un freeze framer, arrêt sur image. On arrête tout, OK? Mm-hmm. On fait juste prendre le temps de respirer. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on diminue notre rythme cardiaque pour reprendre le contrôle sur notre corps et on émet une intention de bien-être en allant chercher un événement dans lequel on a été heureux et calme et on peut figer cet événement-là aussi longtemps qu'on en a besoin pour justement harmoniser le cœur et le cerveau.
C'est intéressant comme exemple. Je pense que c'est intéressant, puis éventuellement, vous viendrez probablement collaborer à l'émission, que vous reveniez avec peut-être un truc comme ça, qu'on puisse prendre le temps de l'apprendre, parce que je me dis, bon, c'est très beau ce que vous dites. Je me suis dit, pendant que je l'écoutais, je me suis dit, la Régie d'assurance automobile du Québec devrait probablement faire affaire avec vous.
Mais, oui, c'est...
Il faudra apprendre des trucs,
ouais,
comme ça. Hein,
tout à fait.
C'est comme,
ouais,
mais
ouais.
Alors, pour les gens qui désirent encore acheter ce livre-là, c'est Route Secours pour l'humain, c'est publié par Québécois et ce sera disponible
À la fin du mois d'août dans dans tout le réseau des librairies, magasins, grandes surfaces, etc.
Bon, alors, merci beaucoup, Paul, d'être venu.
Ah ben, merci à toi aussi, Jeanne-André. Ça fut un plaisir. Moi aussi.
Et c'est ainsi que se termine l'émission d'aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs Benoît Guérin et Paul-Hubert Legault de m'avoir accompagné durant cette dernière heure. J'aimerais vous inviter une dernière fois à nous communiquer vos commentaires à l'adresse suivante radiotonique@live.fr. Live, ça s'écrit live.fr. Nous vous invitons à demeurer à l'écoute pour l'émission Haute fréquence qui suit immédiatement après. Et nous vous souhaitons une belle semaine. À l'animation, à la réalisation, à la recherche et à la mise en onde, Jeanne-Audrey Lajoie. Alors, à la semaine prochaine.
Tango uit een grijs verleden die de schooljeugd van het heden op moet dreunen als gebeten. Begin te leren van Latijn, tango van de lycéisten die hun jeugd eraan verkwisten en die dokteren aanlisten om te ontkomen aan die pijn. Tango die de strenge ouders laden op de smalle schouders van hun keesjes die de houders van het roer der toekomst zijn. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Tango van de knappe verlappen, die met bukkels op hun koppen hun gebrek aan ziel verkroppen als de besten van de klas. Tango van de slappe kezen, die geen letter kunnen lezen, maar straks dokter moeten wezen, omdat papa dat nooit was. Tango die ik niet meer leerde, daar ik toen al geleerde, en verbuigingen begeerde van mijn nichtje Rosa, Rosa. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Tango van het zoete dwalen, pink aan pink door liefdesdalen, zo vertrapte vele malen, ons de zwartrok in het gras. Tango van de natte gaten, waar ik in de plassen staarde, een genadeloos ontwaarde.
Je vous invite à appeler mon père. Il s'occupe de la publicité à Radio Centre-Ville. Si vous voulez faire connaître davantage vos produits ou vos services, téléphonez à mon père. Vous verrez, il connaît son affaire et il est super cool. Annoncez à Radio Centre-Ville.